Record. OK, c'est parti. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Srila Prabhupada ki
Jai.
Jai. Alors, je vais parler de ça. Tiens, on va mettre les deux. Tant qu'à y être. Share. Et voilà, ça ici. Ça comme ça. Oups. Comme ça. Non. Comme ça. Voilà. OK. Alors, sur le Prabhupada qui dit, on est à la page 54, à la ligne 9. Virginie, est-ce que tu voudrais lire?
Oui, bien sûr. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Archana. Après la pratique de Pada, Sevanam vient le processus d'Archana, l'adoration de la Murti. Si l'on désire se livrer à cette pratique, on doit absolument chercher refuge auprès d'un maître spirituel authentique et apprendre l'Archana avec lui. Il existe de nombreux ouvrages concernant l'Archana et plus particulièrement le Narada Pancharatra. À notre époque, il est tout spécialement recommandé de suivre la voie du Pancharatra pour pratiquer l'archana, l'adoration de la Murti dans le temple. En effet, l'archana se pratique selon deux voies, celle dite Bhagavata et celle dénommée Pancharatriki. Le Srimad Bhagavatam ne donne aucune recommandation concernant la voie du Pancharatriki. Parce qu'au cours du présent Kali Yuga, il est possible d'atteindre la perfection par l'intermédiaire de l'écoute du chant du souvenir et de l'adoration des pieds pareils au lotus du Seigneur, sans même se livrer au culte de la Murti. Rupa Goswami déclare: Shri Vishnu Sravane Parikshit Abhavad Veya Shatki Kirtane Prahlada Smarinit Tad Angri Bhajane Lakshmi Pritu Pujane Akrura Dve Abhivandane Kapi Patir Dashi Ta Va Shakye Rojna Sarvasvata Nivedane Balir Abud Krishna Patir Eshyam Param. Parikshit Maharaj obtint le salut par la seule pratique de l'écoute et Shukadev Goswami par celle du chant. Prahlada Maharaj parvint quant à lui au même résultat par le souvenir du Seigneur. La déesse de la fortune, Lakshmi Devi, connut la perfection en adorant les pieds pareils au lotus du Seigneur et Prithu Maharaj fut sauvé en rendant un culte à la Murti. Pour Akrura, ce fut en adressant des prières pour Hanuman, en offrant au Seigneur un service personnel, pour Arjuna, en se liant d'amitié avec le Seigneur, et pour Bali Maharaj, en consacrant tout ce qu'il avait au service du Seigneur. Tous ces illustres bhaktas ont servi le Seigneur selon une méthode particulière, mais chacun d'eux obtint le salut et se montra digne de retourner à Dieu, dans sa demeure originelle. Ceci est expliqué dans le Srimad Bhagavatam. Il est donc recommandé aux bhaktas initiés d'observer les principes du Narada Pancharatra en adorant la Murti dans le temple. Cette voie est tout particulièrement conseillée aux bhaktas qui sont chefs de famille et qui ont beaucoup de biens matériels. Un chef de famille riche qui n'utilise pas son argent durement au service du Seigneur est qualifié d'avare. Il ne s'agit pas de payer des brahmanas pour qu'ils rendent un culte à la Murti. Celui qui n'adore pas personnellement la Murti, mais qui paie des serviteurs pour le faire en son nom, est considéré comme paresseux. Le culte qu'il rend à la Murti est artificiel. Un chef de famille vivant dans l'opulence peut rassembler toutes sortes d'objets de culte somptueux pour adorer la Murti. Aussi, le culte de la Murti est-il obligatoire pour un bhakta responsable d'une famille? Notre mouvement pour la conscience de Krishna compte des brahmacharis, des grihastas, des vanaprastas et des sannyasis. Mais l'adoration de la Murti dans le temple devrait être tout particulièrement accomplie par les chefs de famille. Les brahmacharis peuvent aller prêcher avec les sannyasis et les vanaprastas doivent se préparer à adopter à leur tour l'ordre du renoncement, le sannyasa. Les grihastas, pour leur part, s'adonnent généralement à des activités matérielles. Et s'ils ne pratiquent pas l'adoration de la Murti, leur chute est inévitable. Le culte de la Murti se fait suivant des règles et des principes stricts qui ont pour effet d'assurer notre constance dans le service de dévotion. Les grihastas ont généralement des enfants et leurs épouses doivent donc alors s'occuper de ceux-ci, de la même façon que les femmes s'occupent des petits dans une école maternelle. Les Bhakta Grihastha doivent adopter la pratique de l'Acharnavidhi, ou culte de la Murti, suivant les directives données par le maître spirituel. Quant aux personnes qui seraient incapables de pratiquer l'adoration de la Murti dans le temple, elles doivent suivre la recommandation de l'Agni Purana. Chef de famille qui est certain, qui en certaines circonstances ne peut pratiquer l'adoration de la Murti, doit au moins assister à cette adoration, ce qui lui permettra de connaître lui aussi la réussite. L'objet premier du culte de la Murti est de se maintenir dans un état de propreté et de pureté constante. Les Bhakta-grihastha devraient être de véritables exemples de propreté. L'adoration de la Murti, ainsi que l'écoute et le chant, doivent se poursuivre en même temps. C'est pour chaque mantra est précédé du mot Nama. Tous les mantras possèdent des pouvoirs spécifiques dont les Bhakta-grihastha doivent tirer parti. Il existe de nombreux mantras précédés du mot Nama, mais une personne qui chante ou qui récite le saint nom du Seigneur bénéficie des mêmes résultats que si elle avait prononcé le mot Nama à de nombreuses reprises. De fait, en chantant le saint nom du Seigneur, on peut parvenir au niveau de l'amour pour Dieu. On peut certes demander pourquoi il est alors nécessaire d'être initié. La réponse est que même si le chant des saints noms suffit à nous faire progresser dans la vie spirituelle jusqu'à atteindre le niveau de l'amour pour Dieu, nous demeurons néanmoins exposés à la souillure matérielle à cause du corps que nous possédons. En conséquence, un accent tout particulièrement est mis sur l'Acharnavidhi et il faut régulièrement tirer parti autant de la méthode dite Bhagavata que celle dénommée Pancharatriki. L'adoration de la Murti peut être soit pure, soit mêlée d'activités intéressées. Pour celui qui est stable, cette adoration est obligatoire. La célébration de diverses fêtes comme Shri Janastami, Rama Navami et Nishimha Chaturdasi fait également partie du culte rendu à la Murti. En d'autres termes, les Bhakta-grihastha doivent obligatoirement célébrer ces fêtes. Considérons maintenant les offenses à éviter lorsqu'on pratique l'adoration de la Murti. Elles s'énumèrent comme suit.
Ok, c'est beau, merci. Parce que là, les offenses, il y en a beaucoup. Il y a quasiment 2 pages, si c'est pas plus, d'offenses à éviter. Moi, ouais, 2 pages et quart. Alors, on va commencer par ce qui vient d'être lu. Omegana Timirandasya Gananjana Salakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sur le Prabhupada ki jai. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, quelle est, à la lumière de ce qu'on a lu, pourquoi il faut adorer les Murtis?
C'est une préparation pour aller à l'autre niveau.
Ouais. L'autre niveau, c'est quoi?
L'autre niveau, c'est de voir partout le Seigneur.
Oui, d'accord, ok, mais ça n'a pas été élu, ça.
Non.
Un point qui justifie l'adoration de la Murti qui a été dans la lecture. En fait, le point principal.
Que le culte de la Murti permet d'assurer une constance dans le service de dévotion
Ouais, ça c'est un point.
et
Et là,
préparer l'étape de la vie d'après.
ça n'a pas été dit.
Non?
Oui, retourner à Krishna, oui, d'accord. Mais un autre point important, en fait, qui justifie, c'est quoi la raison pourquoi adorer la Murti dans le temple? Adorer la Murti dans le temple, c'est recommandé par les Écritures. Narada Pancharatra, ça c'est une chose. La raison principale et qui fait que faut pas négliger l'adoration de la Murti, c'est que l'adoration de la Murti va assurer de garder notre pureté. Parce que pour adorer les Murtis, il faut faire preuve de pureté intérieure comme extérieure. Alors, la pureté intérieure, c'est en s'absorbant dans les gloires de Krishna ou de ses purs dévots, parler comme on a déjà discuté, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, ça c'est des méthodes du service de dévotion. Et Archanam, c'est une quatrième méthode du service de dévotion. Alors, comme on verra, ou comme on a commencé à voir, il y a beaucoup de pages qui sont consacrées à cette méthode du service de dévotion comme telle. Alors, il y a la pureté, c'est très important. Alors, si on veut retourner à Krishna, ben on peut pas retourner à Krishna si on est impur. Évidemment, si quelqu'un est impur puis prononce le nom de Krishna au moment de quitter son corps, on va retourner à Krishna. Mais ça, c'est par la grâce de Krishna. Mais en général, il faut avoir la pureté nécessaire. Alors, la pureté, par le chant des saints noms, par l'adoration des Murtis, par l'association des dévots. Et ici, ce qui est recommandé, Pancharatriki, ça veut dire l'adoration de la Murti, mais dans le temple. C'est dit, si les Bhakta Grihastha doivent adopter la pratique de l'Archana Vidhi, ou culte de la Murti, suivant les directives données par le maître spirituel. Quant aux personnes qui seraient incapables de pratiquer l'adoration de la Murti dans le temple, elles doivent suivre la recommandation de l'Agni Purana. Bon. Tout chef de famille qui, en certaines circonstances, ne peut pratiquer l'adoration de la Murti doit au moins assister à cette adoration, ce qui lui permettra de connaître lui aussi la réussite. L'objet premier du culte de la Murti est de se maintenir dans un état de propreté et de pureté constante. Les Bhakta Grihastha devraient être de véritables exemples de propreté. Alors, si on ne fait pas d'adoration soi-même, ce qui est dit ici, pour une raison ou pour une autre, si on en est incapable, ben au moins assister à l'adoration de la Murti. C'est pour ça au temple, il y a des artis, Les artistes ont des cérémonies en adoration des murtis. Et Prabhupada voulait que les dévots aillent au moins deux arties par jour. Une le matin, qu'on appelle le Mangal Arti. Mangala. Mangala, ça veut dire de bon augure. Alors, Mangala Arti, c'est l'arti qui est de bon augure. En général, les dévots vont dire Mangala Arti. Ça, c'est le matin, la première cérémonie. Et une le soir, qu'on appelle Sandhya Arti, et qui est suivie d'une classe Bhagavad Gita en général. Ça peut être d'autres classes, mais en général, le programme standard établi par Srila Prabhupada, c'est une classe de Bhagavad Gita le soir, après l'arti, de 6h30, 6h, 7h, ça dépend des temples, là. Et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. Bon, ben, on va continuer. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires. Bon. Là, on va commencer la lecture sur les offenses à éviter lorsqu'on pratique l'adoration de la Murti. Alors, on est à la page 55, ligne 44. Est-ce qu'Ananda est là par hasard?
Oui!
C'est ça. Hare Krishna!
Hare Krishna! Considérons maintenant les offenses à éviter lorsqu'on pratique l'adoration de la Murti. Elles s'énumèrent comme suit. A. Pénétrer dans le temple avec des chaussures ou en étant porté sur un palanquin. B. Manquer à la célébration des fêtes prescrites. C. Ne pas offrir son hommage en présence de la Murti. D. Adresser des prières dans un état impur sans s'être lavé les mains après avoir mangé. E. Se prosterner en posant une seule main sur le sol. F. Effectuer une marche circulaire directement devant la Murti. G. Allonger ses jambes devant la Murti. H. S'asseoir devant la Murti en se tenant les chevilles. I. Se coucher par terre devant la Murti. J. Manger devant la Murti. K. Mentir devant la Murti. S'adresser à quelqu'un à haute voix devant la Murti. C'est quoi? Ok, c'est ça, je me disais. M, dire des stupidités devant la Murti. N, pleurer devant la Murti. O, se disputer devant la Murti. P, réprimander quelqu'un devant la Murti. Q, témoigner sa faveur à quelqu'un devant la Murti. R, parler durement devant la Murti. S, se couvrir d'une couverture en laine devant la Murti. T, blasphémer quelqu'un devant la Murti. U, vénérer quelqu'un d'autre devant la Murti. V, user d'un langage vulgaire devant la Murti. W, lâcher des vents devant la Murti. X, ne pas adorer la Murti avec face alors qu'on a les moyens. Y, manger de la nourriture non faite à la Murti. Z, ne pas présenter des fruits frais de saison à la Murti. AA, lui offrir de la nourriture ayant déjà été utilisée ou donnée à quelqu'un d'autre. Autrement dit, aucune nourriture ne doit être distribuée à qui que ce soit avant qu'elle ait été offerte à la Murti. BB, s'asseoir en tournant le dos à la Murti. CC, offrir son hommage à quelqu'un d'autre devant la Murti. DD, ne pas risquer les prières qui conviennent en rendant son hommage au maître spirituel. EE, se glorifier devant la Murti. FF, blasphémer les devas. Il faut bien prendre garde d'éviter ces 32 offenses lorsqu'on pratique l'adoration de la Murti.
Jai. Jai. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires là-dessus?
Il y a beaucoup. Bon, ben, ouais. Beaucoup de choses qu'on savait pas, ne serait-ce que se tenir les chevilles. Voilà.
C'est... Ouais, c'est... Ouais, continue si tu veux.
Non, c'est ça, c'est juste que c'est surprenant et en même temps c'est logique, mais c'est juste que c'est surprenant parce que ben oui, je me suis déjà tenu les chevilles au temple. Donc je l'admets et voilà, c'est juste il y en a qui sont surprenantes, je m'y attendais pas mais ça fait du sens.
Ouais, et justement, les personnes qui sont nouvelles, disons, qui font l'expérience de leur présence au temple, ne connaissent pas ces offenses-là. Alors, et souvent, justement, parmi ces offenses-là, il y en a qui vont se manifester, comme tenir les chevilles,
Aussi.
par exemple, pour les dévots qui habitent au temple, ou des dévots qui ont déjà habité au temple, qui sont, comme on dit, des vieux de la vieille, là, et qui arrivent au temple, donnent leurs hommages, puis c'est tellement rapide, tu te demandes est-ce qu'ils ont eu le temps de réciter la prière à leur maître spirituel? Ça, je ne sais pas, là. Mais ça fait partie des offenses, ça. Donner des hommages, disons, c'est plus négligé qu'autre chose. Alors, c'est des choses qu'on peut voir et des choses que personnellement, on devrait se dire, ben, on va pas juger personne, là. Et surtout pas penser qu'on est mieux que les autres, là. Si on voit quelqu'un a fait, mais nous, on le fait pas, là. C'est pas une bonne mentalité non plus, ça. Mais se dire, donc, essayez de les éviter, les offenses, en autant que possible. Alors, il y a une liste ici. C'est sûr que, comme c'est dit ici, il y a 32 offenses. Quelqu'un va pas toujours s'en souvenir, mais s'il s'en souvient au moins de quelques-unes qu'il essaie d'éviter, ben, c'est déjà ça. Alors, il y a des mantras aussi pour se faire pardonner les offenses qu'on aurait pu commettre. Et il y a une prière comme ça, quand on fait l'adoration des Murtis, qu'on va sur l'autel, qu'on habille les déités, qu'on est vraiment en train de faire un service de Pujari. Le Pujari, c'est celui qui habille les déités, baigne les déités, c'est celui qui fait les artis, qui est vraiment, son service est sur l'autel. Alors, il y a des offenses qu'il peut commettre lui aussi. Et à la fin de cette adoration-là, il y a deux mantras que je connais pas par cœur, parce qu'ils sont écrits sur un papier à la fin de l'adoration, puis c'est deux prières que tu récites et que tu demandes d'être pardonné pour toute offense qui aurait pu être commise, en route. Voilà.
J'avais une question pour les
Oui.
enfants.
Oui.
Une que je commettais, puis c'est indirectement que je voulais la commettre, c'est quand tu es au temple, puis là, quelqu'un rentre que tu connais, tout ça, puis commence à parler et tout ça, puis si tu veux pas être impoli, tu l'écoutes, tu réponds. C'est dur des fois, c'est dur de dire bon, arrête, là, on est au temple, là, tu peux pas manquer de respect, ces choses-là.
Exactement, ça c'est une offense. Alors, je peux juste dire, j'espère que les dévots devraient faire preuve de, disons, d'intelligence spirituelle en connaissant les offenses qu'il faut éviter. Tu sais, si quelqu'un connaît pas, c'est une chose, mais à ce moment-là, dans une circonstance comme ça, on peut, si c'est possible, dire à la personne, OK, on va aller en dehors de la salle du temple, puis on va se parler. C'est tout. Parce que c'est pas. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand quelqu'un est dans la salle du temple, les rideaux sont ouverts, puis les déités sont là, c'est pas notre petite personne qui doit être le centre d'attention. C'est les déités. C'est les Murtis. Nous, en fait, qui sommes-nous pour, disons, accaparer l'attention. C'est pas ça, là. C'est pas la place, ça. Alors, devant, dans la salle du temple, devant les déités, quand les rideaux sont ouverts, faut mettre son attention, sa méditation sur les murtis. Et ça, on devrait le savoir. Et puis, disons, s'il y a d'autres personnes qui... S'il y a des personnes à qui on peut parler, puis les mettre tout de suite sur la bonne voie, mettons dire, ben, écoute, c'est pas le moment, on va se concentrer sur les déités. Ça peut être fait, ça aussi. Mais évidemment, les déités dans le Kali Yuga, ils savent très bien à qui elles ont devant elles et sont très miséricordieuses. Mais il faut éviter les offenses autant que possible. Est-ce que ça répond à la question?
Oui. J'en allais à une autre.
Oui, allez.
Quand l'adoration est finie, puis il y a encore l'autel qui les rideaux sont ouverts, mais il y a quelqu'un qui donne la classe. Puis des fois, veut dire le monde met les pieds devant, pas l'autel, mais devant le swami ou la personne qui donne la classe. Est-ce que ça aussi c'est une offense?
C'est manque de respect, ça.
Okay.
Parce que normalement, tu pointes pas tes pieds vers... Donc, le dévot qui donne la classe, en fait, c'est... Il est en train de faire un service. Puis celui qui donne vraiment la classe, c'est Krishna, à travers le dévot. Le dévot est un instrument, comme on a déjà expliqué, là, au dernier cours, l'avant-dernier cours, que quand un dévot fait une classe, c'est Krishna qui lui donne l'inspiration. Parce que les classes, c'est pas du coller-copier de ce que tu as lu. Il faut, oui, si tu as une bonne mémoire, tu peux répéter, mais ça prend une inspiration qui vient de l'intérieur aussi. Alors, des fois, dans les classes, tu dis des choses que tu n'avais pas planifié de dire, mais c'est sorti spontanément, sur le coup de l'inspiration du moment. Tu sais, des fois, les classes, là, mettons, c'est un côté, disons, comment on peut dire, un des côtés les plus, pas les plus intéressants, mais ça fait partie du fait que les cours sont intéressants, que justement, des fois, il y a des questions qui sont posées, puis tu te demandes c'est quoi la réponse, ou qu'est-ce que le dévot va répondre. Et en particulier avec Srila Prabhupada, quand il faisait des classes, les questions arrivaient de dévots qui posaient des bonnes questions. Puis là, ben c'est tout le monde avait les oreilles sur la réponse. Qu'est-ce que Prabhupada va répondre? Puis là, ben ça, c'est intéressant. Et les classes, c'est comme ça aussi. C'est qu'il y a une partie, oui, il y a une partie théorique, on lit, patati patata. Ensuite, il y a une classe. Mais ensuite, il y a les questions et réponses, un échange questions-réponses qui fait autant partie de la classe que qu'est-ce qui a précédé. Mais comme on fait en ce moment. On a lu, maintenant on passe aux questions, aux commentaires. On espère que les réponses sont bonnes. On prie pour, en tout cas. Mais moi, je me souviens quand j'étais nouveau dévot et que j'ai été au temple de New York à l'époque qui se trouvait à Brooklyn. Et le soir, il y avait des classes de Bhagavad Gita avec des dévots qui sont des dévots, dévotes qui sont devenus, dans mon livre à moi, des grands dévots et grandes dévotes dans le mouvement. Et il y avait une dévote en particulier que je trouvais vraiment intéressante à écouter. Elle s'appelait Jadurani, une disciple de Srila Prabhupada. Et Jadurani, c'est la disciple qui a fait beaucoup de peintures pour illustrer les livres de Prabhupada.
Oui, oui, oui.
Alors, Prabhupada dit, c'est lui qui a entraîné Jadurani à peindre. Et elle était toujours, disons, s'il fallait peindre tel sujet, elle consultait avec Prabhupada, comment faire ou qu'est-ce qu'il faut qu'elle mette dans la peinture. Puis Prabhupada lui donnait des directives. Et elle faisait des classes aussi le soir après l'artie de 7 heures. Et elle avait une façon à elle de faire des classes. Elle n'était pas toute seule à le faire comme ça, mais c'est le genre de classe que c'est parmi les premiers dévots qui faisaient des classes. Il y avait ce style-là. Il n'y a pas juste elle, Jayadvaita Swami, qui lui est en charge d'imprimer les livres du BBT à l'époque, puis qui a fait ça pendant plusieurs années, un dévot très érudit, parce qu'il est dans les livres, il fait l'édition des livres. Il en connaît un paquet de choses. Alors, il faisait des classes et il y avait des similitudes. Des dévots qui sont très, disons, comme on dit, très calés dans les écritures. C'est très, très intéressant d'écouter ces dévots-là. Et puis, il y avait un autre dévot que j'aimais bien, Bhavananda, était président du temple de Brooklyn à l'époque. Lui aussi faisait des classes, c'était très intéressant. Il y avait d'autres dévots, un dévot qui s'appelle Bharadraj. Lui aussi était peintre. Bharadraj a joint au temple de Montréal dans les premiers jours des temples à Montréal. Et puis, et il s'est marié avec une autre dévote qui s'appelle Rukmini et qui, elle aussi, faisait des classes, en fait toujours, très active sur Dandavat, fait des séminaires sur tel sujet, très, très bonne dévote, une dévote ancienne de Prabhupada. Et puis, c'est ça qui est intéressant, les échanges, questions-réponses, plus la philosophie. C'est extra. C'est vraiment bien. Est-ce que des questions, commentaires? Alors, c'est ça. Faut éviter. Si on a entendu les offenses, et c'est bon une fois de temps en temps de relire les offenses et essayer de voir si on peut corriger quelque chose. Et ça, dans le temple, c'est sûr. Vous allez au temple de Montréal, ou un autre temple, mais en tout cas, temple de Montréal, parce que c'est celui-là qu'on fréquente. Il y a toujours des personnes qui savent pas s'asseoir, ou qui ont les pieds en avant. Puis je peux comprendre parce que pas tout le monde qui est habitué à se mettre les jambes en croisée, en yogi, là. Et quand c'est dans les débuts, ça fait mal aux chevilles. Alors, c'est pas évident. Ça prend un certain temps avant de s'habituer. Et si possible, de les aider à s'asseoir comme il faut. Alors, une fois, j'ai écouté une classe de Prabhupada. Et Prabhupada, il est en train de donner sa classe. Il y a quelqu'un qui est pas en train de s'asseoir comme il faut. Probablement qu'il est en train de s'asseoir, en tout cas, je sais pas quoi, mais on peut pas le dire, là. Parce que c'est juste audio. Alors, Prabhupada, à un moment donné, interrompt sa classe, puis il dit, non, excusez-moi, c'est pas une classe, ça me revient, là, c'est pas une classe. C'est le japa de Prabhupada. Il y en a pas beaucoup de cassettes sur le japa de Prabhupada. Mais celui qui est écouté probablement le plus, puis là, à un moment donné, Prabhupada interrompt son japa. Puis là, il dit, sit properly. Il dit, assoyez-vous convenablement. Il est en train de parler à un dévot, puis ensuite, il continue. Et ça, ça montre justement que tu peux pas t'asseoir n'importe comment quand tu es dans la salle du temple, là. Et il faut essayer d'éviter des offenses. Alors, sit properly. Ça, au moins, c'est facile à se rappeler. S'asseoir de façon convenable. Et ça veut pas nécessaire. Aujourd'hui, dans les temples, ils mettent des bancs. ils mettent des chaises, parce que les dévots sont vieux. Mais la vraie façon de s'asseoir, c'est en yogi, sur le plancher. Puis avec le temps, ben les dévots ont introduit des coussins dans les salles de temple pour que ça soit plus confortable pour les dévots. Mais ça n'a pas toujours été comme ça là. Dans les débuts, c'était bienvenue sur le plancher. C'était comme ça. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires?
Aller au temple, c'est comme on irait dans pas un château, quelque chose de grand, puis voir l'empereur. Puis quand on regarde l'empereur, on se tourne pas le dos ou les affaires comme ça. Il faut avoir un respect plus que respect. C'est vraiment une attitude de révérence. Que c'est vraiment dans notre tête tout le temps, c'est l'empereur. Tu sais, c'est pas à peu près là. C'est pas comme OK, bon bye, puis on s'en va. C'est faut montrer toutes les étiquettes de respect à l'empereur. C'est quand même l'empereur. C'est le maître de l'univers. Il faut le prendre dans cet esprit-là, non?
Oui, tout à fait. Il faut faire preuve de respect, de dévotion par rapport au Murti. C'est pas juste des objets de pierre, comme Prabhupada dirait. Là, c'est pas juste de la pierre. Les déités sont là. Krishna est là. Et Prabhupada dit quand on va être suffisamment avancé spirituellement, on va voir sur l'autel qu'en fait, les déités sont pas différentes de Krishna lui-même. Alors, voilà. Et ça, on lit dans le livre de Krishna une des caractéristiques des démons. Ils ont une attitude toujours... comment on peut dire? Trop familière avec Krishna. En fait, plus loin, disons, plus mauvaise que juste pas trop familier, mais ils prennent toujours Krishna à la légère. C'est une des caractéristiques, là. Pourquoi est-ce qu'ils devraient vouer leur respect ou leur rendre honneur à Krishna? Alors, même Indra s'est fait prendre à ce jeu-là, parce qu'il était devenu très orgueilleux de sa position. Alors, pourquoi ce petit pâte-là de Vrindavan fait que les habitants de Vrindavan ne vont pas me vouer un culte? C'est juste un petit pâtre. Alors, Krishna lui a montré c'est qui le petit pâtre. Qu'est-ce qu'il est capable de faire, le petit pâtre? Et Indra a dû changer son attitude. Et venez offrir ses respects à Krishna. Même si Krishna a l'air juste d'un petit pâtre, pas très fort, innocent et inoffensif, loin de là. Il est la source de tout ce qui existe, d'une puissance infinie. Ça, c'est Krishna. Commentaire, question encore?
Un autre petit point, est-ce qu'il y a eu un moment, un âge, où les démons n'ont pas été là? Parce qu'ils sont toujours là, partout, dans tous les âges, on les entend, mais ils sont toujours là.
OK. Oui, c'est un fait, ils sont toujours là. Comme Krishna dit, il existe deux dans le Bhagavad Gita. Krishna dit, dans le chapitre 16, Bhagavad Gita, il existe en ce monde deux sortes d'êtres, les devas et les asuras. Alors, les devas, ce sont les demi-dieux ou les dévots, et les asuras, ce sont les démons, les athées. Il y en a toujours de ces deux-là. Et ils sont toujours en chicane depuis des temps immémoriaux. Mais on peut dire aussi que, par exemple, dans le Satya Yuga, qui est l'âge d'or, l'âge de pureté, il n'y a pas d'activité pécheresse. Ça veut dire que les gens sont vraiment pieux, là. Ça veut dire qu'il y a moins presque pas d'activité démoniaque. Et à mesure que les âges se succèdent, ben là, les activités démoniaques augmentent aussi.
Est-ce que c'était le temps de Nrsimhadev? Est-ce que c'était l'époque que Nrsimhadev et Prahlad Maharaj étaient là, cet âge-là?
Je peux pas te dire, mais ce que je dis, c'est qu'il y a quatre âges. Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga et Kali Yuga. Alors, dans le Satya Yuga, qui est l'âge d'or, c'est l'âge où tout la pureté est là. Alors, il y a presque pas d'activité pécheresse. Mais à mesure que les autres âges se suivent, il y a une décadence, une dégradation qui est amorcée, et puis ça dégénère jusqu'au Kali Yuga, où c'est la prédominance des activités pécheresses. C'est, le cours est renversé, là. Il y a presque pas de vertu dans l'âge de Kali. D'autres questions, d'autres commentaires? OK, on va continuer. Virginie, ligne 23.
Hare Krishna. Le Varaha Purana mentionne également les offenses suivantes. Petit à manger chez un homme riche. Petit b, pénétrer dans la salle des Murtis dans l'obscurité. Petit c, rendre un culte à la Murti sans observer les principes régulateurs. Petit d, pénétrer dans le temple sans s'annoncer par le moindre bruit.
OK, on va commenter celle-là. C'est pourquoi, à l'entrée du temple, il y a une petite cloche. Alors, quand vous rentrez dans le temple, vous, avec votre main, vous faites vibrer la cloche. Ça annonce votre présence. Alors, c'est ce à quoi sert la cloche. Alors, vas-y, continue, s'il vous plaît.
Pénétrer dans le petit dé, pénétrer dans le temple sans s'annoncer par le moindre bruit. Petit e, utiliser de la nourriture qui a été vue par un chien. Petit f, rompre le silence pendant qu'on adore la Murti. Petit g, aller faire ses besoins naturels au moment d'adorer la Murti. Petit h, offrir de l'encens sans offrir de fleurs. Petit i, offrir à la Murti des fleurs défendues. J, commencer le culte sans s'être brossé les dents. K, rendre un culte après avoir eu des rapports sexuels. L, toucher une lampe, un cadavre ou une femme au cours de ses menstruations. Ou encore porter des vêtements rouges ou bleus et des vêtements n'ayant pas été lavés appartenant à une autre personne ou qui soient sales. D'autres offenses consistent à rendre un culte à la Murti après avoir vu un mort, à lâcher des vents devant la Murti, à se mettre en colère devant la Murti et à rendre un culte juste après s'être rendu dans un lieu de crémation. Après avoir mangé, il ne faut pas rendre un culte à la Murti avant d'avoir digéré sa nourriture. Pas plus qu'il ne faut toucher la Murti ou se livrer au moindre culte après avoir consommé de l'huile de Kartam ou de l'Asa Fouettida.
La suite, la asfetida, en tout cas,
La Sfetida.
ouais. Savez-vous c'est quoi ça?
Non. C'est le Ying.
Ouais, c'est ça, c'est le Ing. Un autre nom, c'est Ing, puis asfetida. C'est une épice que l'on met dans les préparations de légumes pour Krishna. Krishna, dans l'adoration des Murtis. On met de l'asfatida dans les légumes, la préparation de légumes. Comme par exemple, si on cuisine une préparation, ça c'est courant dans les temples, là, avec des aubergines, des tomates, du gui, du curcuma, du sel et asfatida. Et chili aussi. On va mettre ce qu'on appelle un chaunch, les graines de cumin et un chili rôti dans le ghee. On va ajouter ça aux légumes. Et ça, c'est souvent une préparation qui est offerte aux déités. Pas juste fait avec les aubergines, ça peut être fait avec d'autres choses. Mais ça, c'est une composante, une façon d'épicer les aliments qui vont être offerts au Murti. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
C'est ça qui remplace l'oignon ou l'ail, quelque chose comme ça, là?
Oui, c'est en plein ça. Parce que dans les aliments, justement, qu'on peut offrir à Krishna, il n'y a pas d'oignon, il n'y a pas d'ail, mais c'est l'asafoetida qui va le remplacer. Et pratiquement parlant, ça donne un bon goût. Autre question, commentaire?
Juste pourquoi des vêtements rouges et bleus? Ouais, c'est une question aussi. Ou si ça m'a interpellé toucher une lampe, bon, un cadavre ou une femme au cours de ses menstruations, ça se comprend, mais toucher une lampe.
Attends, on a touché une lampe. Ça, je peux pas expliquer ça. Je peux pas dire pourquoi, mais probablement qu'une lampe, c'est pas si propre que ça. C'est avec la fumée noire là qui émane de la flamme. Alors, probablement que c'est pour ça. Toucher un cadavre, ben ça semble assez évident là.
Oui.
Et je pense pas qu'il y ait de cadavres qui traînent autour d'un temple plus qu'il faut, mais on sait pas d'où pourrait venir la personne. Alors, c'est dit ici, c'est une offense. Bon, ou encore porter des vêtements rouges ou bleus. Ben, probablement que les déités, c'est sûr, ils portent des vêtements rouges ou bleus. Ça, c'est sûr. Alors, il n'y a pas juste rouge ou bleu, mais c'est sûr que des déités portent des vêtements rouges ou bleus. Des fois, c'est vert, des fois, c'est jaune. Mais là, c'est dit ici, vêtements rouges et bleus. Ben, disons par respect pour les déités.
D'accord.
Tu sais, comme Prabhupada avait dit au début ici, là, que le principe de propreté. Alors, ici, c'est dit, des vêtements n'ayant pas été lavés, appartenant à une autre personne, ou qui soit sale. Alors, pour avoir ses propres vêtements, il faut qu'ils soient propres. C'est ça, qu'ils soient propres. Alors, disons, avant d'aller voir les déités, mettons c'est le soir, là. Disons, les dévots qui habitent au temple, ils prennent une douche avant d'aller à l'artie le soir. Ou du moins, dans mon temps, quand j'étais nouveau dévot, c'était comme ça, là. On prenait une douche en revenant du Sankirtan, puis après on allait à l'arti le soir. Alors, c'est des règles qui s'appliquent dans la mesure où les personnes les comprennent et veulent bien les suivre, et ça donne un résultat de conscience de Krishna. Et c'est pas tout le monde qui va suivre ces règles-là, parce que les règles dans la conscience de Krishna, ça doit être suivi d'une façon volontaire. Forcer quelqu'un à suivre des règles, là, ça vaut ce que ça vaut. Mais il faut qu'il y ait un moment donné, il faut que la personne veuille suivre les règles comme telles. S'il y a d'autres questions, commentaires. OK, on va continuer. Ananda, s'il vous plaît.
Oui. On trouve ailleurs la liste des offenses suivantes. A. S'opposer aux injonctions des écritures védiques ou manquer de respect au Srimad Bhagavatam en son fort intérieur, tout en prétendant extérieurement en accepter les principes. B. Faire connaître des shastras qui diffèrent des écritures védiques. C. Mâcher du pain et du bétel devant la Murti. D. Conserver des fleurs destinées au culte sur une feuille de ricin. E. Adorer la Murti pendant l'après-midi. F. S'asseoir sur l'autel ou à même le sol pour adorer la Murti.
OK, un moment. C'est dit ici, adorer la Murti pendant l'après-midi. Pourquoi il ne faut pas adorer la Murti à ce temps-là?
Moi, ma première idée, c'est parce qu'il y a une question de repos.
En plein ça. Krishna, c'est 16 heures pour se reposer dans
Non, c'est
l'après-midi.
génial. Ça,
Alors,
je sais.
après l'artie du midi, qui est normalement une grosse artie, aussi, l'artie du midi, quand l'offrande est faite, là, ils font l'offrande à 11 heures. Ils laissent une heure aux déités pour, disons, manger la nourriture. Et à midi, à l'artie, disons, midi et demi, 1h15 à peu près, tout est fini, les plats sont enlevés, les autels sont nettoyés, etc. Et là, le pujari va mettre les déités au repos. Il y a des mantras pour faire ça, là. Une façon de faire. Et là, les murtis vont se réveiller à 4 heures. À 16 heures. Alors, c'est pourquoi, dans la salle du temple, normalement, disons, si tout va bien, là, entre guillemets, les dévots ne doivent pas faire de bruit s'ils ont affaire à aller dans la salle du temple, justement, par égard aux murtis qui prennent leur repos, qui dorment entre midi et demi à peu près jusqu'à 16 heures dans l'après-midi. Alors, c'est pour ça, là, c'est dit ici. C'est dit ici. Adorer la Murti pendant l'après-midi. Évidemment, il y a des exceptions. C'est pas toujours comme ça. Il y a des journées spéciales que les autorités du temple vont déterminer. Comme par exemple, ils vont laisser les rideaux ouverts toute la journée, le dimanche. Encore, j'ai déjà vu ça, là, s'ils ne continuent pas de faire ça à Montréal, mais ou les grandes journées de fête de Krishna, comme Janmashtami, il y a des chances qu'ils vont laisser les rideaux ouverts plus longtemps, pour donner une facilité aux gens qui vont venir visiter les Murtis, parce que c'est une grande journée, de leur permettre de voir les Murtis et d'avoir la grâce de voir les Murtis ces journées-là. Mais en temps normal, les déités sont au repos dans l'après-midi. On continue?
Juste une
oui.
chose. Il y a aussi une fois, moi, je peinturais l'hôtel en arrière. Ils m'ont laissé peinturer pendant le temps que les Murtis se reposaient. Est-ce que j'ai fait une grosse offense?
Non, t'as pas fait de grosse offense. Si quelqu'un a fait une offense, c'est celui qui t'a demandé de le faire. Non, non, il n'y a pas d'offense. C'est le service, faire le service. Comme des fois, là, les dévots, ou même des ouvriers, mais en général, c'est plutôt les dévots qui font ça, qui font un job d'ouvrier dans la salle du temple. Puis, ils vont être dans leurs chaussures. Parce que c'est le travail qui veut ça. Alors, est-ce que c'est une offense? On peut dire dans un sens, oui. Mais en fait, c'est contrecarré. Parce que c'est pour... ça fait partie du service à faire. Tu vas pas monter dans une échelle au temple de Montréal, là. Tu montes, ils ont des échafauds, là. Tu vas pas monter là-dedans à pieds nus, je m'excuse, là, ou en chaussettes, là. Ça te prend quelque chose, là. Des bonnes bottines de travail, là. Des bottes de travail, et puis, tu fais ton service. Alors, Krishna, il regarde le service, lui. Il regarde pas les petites pécatilles d'offense. Il regarde qui fait l'offense dans le sens que s'il savait, mais il le fait pareil, la réaction va être un peu plus forte que s'il ne le savait pas. Alors, C'est la conscience de Krishna, c'est que quand tu as entendu quelque chose, c'est beau, mais il faut que tu agisses en conséquence aussi. Ça va avec.
Juste pour terminer, moi, je me suis senti vraiment spécial et béni de pouvoir rentrer dans l'hôtel en arrière. C'était une expérience, j'en reviens pas, j'ai eu comme des frissons. C'était comme une énergie spéciale, vraiment forte.
Oui, c'est spécial, là, quand tu te retrouves derrière les rideaux. Tout cet espace-là, là, l'hôtel, puis qu'est-ce qu'il y a en arrière, puis les espaces pour tous les vêtements des déités, où c'est qu'ils rangent tous les accessoires pour les déités, tout ça. Là, tu peux sentir, c'est vraiment, c'est les choses qui appartiennent aux déités. Et ça, ben, c'est extraordinaire.
Au total.
Ouais. OK, on continue un petit peu.
Donc, s'asseoir sur l'autel ou à même le sol pour adorer la Murti sans une natte. G, toucher la Murti avec la main gauche en la baignant. H, offrir à la Murti une fleur fanée ou ayant déjà été utilisée. I, cracher tandis qu'on rend un culte à la Murti. J, se vanter pendant qu'on adore la Murti. K, appliquer le tilak de travers sur son front. L, pénétrer dans le temple sans s'être lavé les pieds. M, offrir à la Murti de la nourriture préparée pour une personne non initiée. N, rendre un culte à la Murti et lui offrir du bouddha devant une personne non initiée ou un abhakta. O, adorer la Murti sans rendre un culte aux divinités de Vaikuntha comme Ganesha. P, rendre un culte à la Murti lorsqu'on transpire. Q, refuser des fleurs ayant été offertes à la Murti. R, prononcer un vœu ou faire un serment par le Saint-Nom du Seigneur. Si quelqu'un commet...
Ok, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires là-dessus?
Oui, j'ai une question. Alors, j'imagine, par exemple, dans des pays comme, des pays tropicaux, pas transpirer quand on rend... C'est difficile de pas transpirer, de pas... je veux dire, ça dépend aussi des conditions dans lesquelles on est. Donc après, je sais pas. Je demande, je voilà, c'est juste une remarque. Je me dis que ça doit être un peu difficile, quand même, de pas transpirer du tout.
Attends une minute, c'est où? C'est quelle lettre, ça?
C'était le P à la ligne 7. Rendre un culte à la Murti lorsqu'on transpire.
Ben, s'il fait trop chaud, puis l'atmosphère est chaude et humide, et puis que... C'est le cas en Inde, par exemple. En Inde, là, t'as juste existé, tu transpires. Je me souviens très bien quand on était à Vrindavan. C'était même pas le mois le plus chaud. C'était au printemps à Vrindavan, au mois de février ou mars. Quand le programme du matin est terminé, tu te ramasses dehors puis tes vêtements sont déjà mouillés et t'as rien fait. Parce qu'il fait chaud et humide. Alors, les dévots, qu'est-ce qu'ils font? Ben, s'ils peuvent pas l'éviter, mais normalement, ils doivent faire quelque chose pour... Ah, c'est prendre plusieurs douches, je sais pas moi. Se rafraîchir, faire quelque chose. Mais quand ils arrivent sur l'hôtel, les pujaris, ils doivent... être assez, disons, comme on dit en langage, être assez cool pour ne pas transpirer et peut-être mettre un éventail électrique qui envoie de l'air frais pour enlever la chaleur ou quelque chose. Si ça peut être évité, le mieux c'est. Ça dépend des personnes. Ça dépend peut-être des pujaris. Si un pujari, il y en a un qui transpire à grosses gouttes, il fait rien. Je pense que c'est pas sa place d'aller adorer les déités. Alors, s'il y a un autre dévot qui transpire moins ou transpire pas du tout, puis qui est capable d'être Pujari, ben tant mieux. Je pense que c'est le choix à faire. En Occident, je pense pas que ça soit un gros problème, ça. Surtout au Canada, là.
Non.
C'est...
pas en ce moment.
C'est ça.
Souvent, ils enlèvent le haut, ils ont seulement le sacred thread, là. Je sais pas, ils gardent seulement les fils. Je sais pas comment
ouais,
dire
ça. Oui, mais ça dépend des places. Ça dépend des places. Parce que normalement, c'est... Disons, soit torse nu, mais ils sont pas supposés d'être torse nu. Ils sont supposés d'avoir un châle. Tu sais, un châle avec le mahamantra dessus ou quelque chose. T'es pas supposé d'avoir le torse nu pour adorer les déités. Alors, c'est ça, là. Selon temps, circonstances et endroits. Tu sais, si tu fais de l'adoration des déités au pôle Nord, par exemple. Ben là, torse nu, oublie ça. Il faut que tu y vas selon temps, circonstances et individus, là.
OK.
C'est Krishna qui comprend là, ces choses-là, là, c'est tout. Des fois, au temple de Montréal, là, des fois, en plein hiver, il y a des coupures de courant parce qu'ils n'ont pas payé l'électricité. L'argent n'est pas là. Alors, il fait pas chaud dans le temple à ce moment-là. Là. Faut utiliser son intelligence, là. Mais il y a des dévots qui sont assez braves, comme si de rien n'était. La vie continue, alors pieds nus, puis juste un châle, puis tout ça. Comment qu'ils sont pas malades, je ne sais pas, par la grâce de Krishna. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires?
J'ai une petite question rapidement, c'est juste parce que je me suis rappelé de ça. À la page précédente, la ligne 27-28, il y a écrit qu'on peut pas, voilà, il y a les fleurs défendues qu'on peut pas offrir à la Murti. C'est quoi les fleurs défendues qu'il faut pas offrir?
Ça, c'est comme le fruit défendu. Non, je fais une blague, là. Le fruit défendu dans la Bible, là. Non, non, les fleurs défendues, si on lit le nectar de dévotion, c'est dit qu'on ne devrait pas offrir aux Murtis des fleurs qui n'ont pas de parfum.
Ah, ok, d'accord.
Des fleurs qui sentent rien.
C'est ça. Mmh.
Et ça, ça existe, malheureusement. Ils sont belles, mais ils sentent rien. Tu sais, genre de fleurs comme des marguerites, là. Du moins, peut-être dans cette famille-là, il y a des fleurs qui sentent vraiment rien. Elles sont belles à regarder, mais le parfum manque. Ça, on ne devrait pas offrir des fleurs comme ça aux Murtis. Ah, oui?
J'allais justement dire, et si jamais, pour mesure de circonstance, on n'a vraiment pas accès à d'autres types de fleurs, est-ce qu'on a possibilité de rajouter, comme, je sais pas, des huiles spéciales ou particulières sur les fleurs avant de les offrir ou quelque chose comme ça?
Moi, je dirais que non.
Ok, parfait.
Mais je dirais que faites l'offrande pareil.
Ok.
Parce que Krishna, lui, il regarde la dévotion.
Ok. Merci, Prabhu.
C'est mon opinion, là.
Mm-hmm. Merci.
Parce que Krishna, il regarde est-ce que le dévot avait le choix ou pas le choix. Mais s'il avait vraiment pas le choix, là, tu sais, mettons, t'es dans le désert, là, pis t'as une place où y a deux, trois fleurs qui sont là, là, pis c'est juste ces trois fleurs-là. T'es dans le désert, là.
Mm-hmm.
Tu veux faire une offrande aux déités de fleurs. Ben, tu vas en prendre une sur les trois, ou tu vas te dire, je vais prendre les trois, chacune à son moment venu, puis je ferai trois orties avec ces fleurs-là, parce que c'est ça qu'il y a. Alors, Krishna comprend dans ce temps-là, là, c'est l'intention qui compte.
Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
OK. Alors, il y avait une histoire avec un des Goswami de Vrindavan, puis lui, il mangeait juste des chapatis avec rien. où il offrait des chapatis justement sans sel, sans beurre, et vraiment sec, sèche. Puis là, à un moment donné, soit c'est la déité elle-même ou soit le Seigneur Titanic qui vient te voir, mais pourquoi t'offres tu fais des offrandes comme ça? Puis le dévot, il a répondu, ben, c'est parce que c'est ça que tu me fournis. Alors, je te donne ce que tu me donnes. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est comme ça que je dis, ben, si c'est ça que t'as, ben, offre-les parce que c'est ça que tu peux offrir. Alors, le contraire de ça, c'est qu'on l'a lu ça aussi, là. C'est la personne qui vit dans l'opulence et qui veut pas se donner la peine elle-même d'adorer Deité. Il va engager des brahmanas pour faire l'adoration des murtis. Alors, on a lu ça tantôt, que son adoration est jugée artificielle. Alors, toi, Krishna n'est pas dupe. Il veut voir la dévotion du dévot. Alors, celui qui est capable, il est capable et devrait le faire. Puis celui, ben, qui a moins de moyens, ben, qu'il le fasse selon ses moyens. C'est tout. Ouais. OK. Autre question, commentaire? Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup.
Ouais,
et puis, prochain cours, samedi.
Parfait. OK.
Merci beaucoup.
Hare
Krishna. Hare Haribo. Jai. Haribo. Jayo. Jai. Oh boy. Voilà.
Michel Fred n'est pas là.
Allez, bon. Jayo. Comment ça marche, cette affaire-là? Ah, OK, pause.